Dans les éléments caractéristiques de la noblesse, il est rapidement apparu qu'elle avait un contrôle très élevé du sol bas-normand. Dans un autre chapitre de ma thèse, j'ai montré par le dépouillement des matrices des 20e, j'ai dépouillé 102 000 hectares référencés sur 228 paroisses à peu près de mémoire. Donc sur 102 000 hectares de terre que j'ai référencés, j'en ai un tiers, 33,36%, qui appartient à la noblesse. Ce qui en fait un des plus forts taux en France et dans le nord-ouest de la France. L'examen de cette propriété foncière nobiliaire m'a amené à constater que les personnes qui faisaient les matrices des 20e distinguaient systématiquement des fermes et des réserves. Et ils commençaient toujours par la description de la réserve. Et après, ils enchaînaient sur les fermes. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi ? C'est des terres. Et en fin de compte, j'ai compris que la réserve était vraiment une terre que le seigneur se réservait en gestion directe, contrairement aux fermes qu'il louait contre un revenu. Et comme l'imposition était générée par le revenu créé par l'allocation des terres, eh bien, les gens des matrices étaient amenés à séparer les terres qui étaient gérées directement par le propriétaire. Donc ça m'a permis de distinguer 76 réserves au total dans les matrices des 20e que j'ai dépouillées. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis intéressé au profil des propriétaires de réserves. Parce qu'on voit bien qu'il y a des nobles qui ne font que louer des terres et d'autres qui louent des terres, mais aussi exploitent une partie de leur terre directement. Le terme de réserve est aussi à préciser, c'est-à-dire que ce n'est pas comme au Moyen-Âge, la partie que le seigneur se réserve au sens le domaine foncier du seigneur, c'est uniquement la partie, là, strictement, au sens strict, la partie qu'il exploite directement, le reste étant loué. D'accord ? Donc si finalement, ce serait la réserve de la réserve. Bon. Alors, la noblesse contrôle un tiers du sol du centre à la basse Normandie afin de satisfaire son envie de reconnaissance familiale et sociale, mais aussi pour assurer la base de ses revenus. Certains nobles sont devenus, au fil des générations, de véritables spécialistes de la mise en valeur du sol, des maîtres d'exploitation agricole. On peut caractériser cette strate de la noblesse à partir de quelques critères. Tout d'abord, les gentilshommes fermiers résident en continu à la campagne, dans leur logis, manoir, rarement château. La ville n'est pour eux qu'un lieu transitoire, de passage ou de résidence brève, où l'on va plaider en justice, signer des contrats devant le notaire, se ravitailler en produits spécialisés, mais aussi rendre ses visites familiales et amicales. Ensuite, ils administrent directement leur patrimoine foncier en gérant une exploitation agricole constituée par la réserve. Ils ne s'en remettent pas à un intendant pour prendre les décisions à leur place. Ils peuvent bien sûr louer leurs terres, mais ils ne font pas que cela, ce qui les couperait de la réalité de l'exploitation. Enfin, ils n'ont pas d'autre métier généralement que la gestion de leurs terres. On a quelques cas de gens qui deviennent gentilshommes fermiers après avoir fait une carrière militaire, ils reviennent sur leurs terres et ils gèrent leurs terres. Mais c'est plutôt rare. Ainsi, un gentilhomme fermier, confronté à toutes les facettes de la vie rurale, fait partie intégrante de la société rurale. Première question, ce genre de vie est-il fréquent parmi la noblesse du XVIIIe siècle ? Comment ces nobles gèrent-ils leurs exploitations agricoles ? Quelles sont les caractéristiques de ces exploitations ? Est-ce qu'elles reflètent des stratégies particulières ? Enfin, deuxième point, quels sont les cadres de vie et la sociabilité de cette catégorie de la noblesse ? Alors, la vie de gentilhomme fermier n'est pas une condition réservée à une noblesse dont la pauvreté nécessiterait un repli sur des terres ancestrales. Sur un total de 885 foyers nobles suivis durant le XVIIIe siècle, 248 peuvent être rangés dans cette catégorie, soit 28,02% des foyers nobles et 36,7% des foyers ruraux. D'accord ? Sur les 885 foyers que j'ai suivis, il y en a 675 ruraux, 210 urbains. Cette proportion est confirmée par l'étude des inventaires après décès. En effet, sur 71 inventaires de nobles ruraux, 18 n'inventorient qu'une chambre, aucune structure, en tout cas une habitation ne montrant aucune structure d'exploitation agricole, pas de grange, pas d'écurie, rien. Sur les 53 restants, il y en a 17, soit 32% de l'échantillon, qui répertorient une ou deux charrues équipées, ainsi que des animaux de labour. Donc là, on est sûr qu'ils cultivent l'exploitation dont ils sont propriétaires. Je précise que ce n'est pas on pourrait penser des charrues qui appartiendraient aux fermiers qui s'occuperaient. Non, c'est bien marqué la charrue du noble. Bon. On peut ainsi considérer qu'environ un tiers des nobles résidant en campagne dans l'espace que j'ai étudié sont des gentilshommes fermiers. L'éventail des situations est très ouvert. Nous y trouvons aussi bien le noble avec une réserve microfondière, telle les 2,46 hectares de Charles-Louis-François de Couespel de Landisac, que le noble tirant sa subsistance d'une exploitation agricole réduite, comme Pierre-François Charles de Billeuse et ses 12,08 hectares, celui qui assure son autosuffisance et produit assez de grains pour vendre ses surplus, tel Pierre de Hainaut de Canteloup qui exploite 26,4 hectares de terre à Clécy, et enfin celui qui pratique la culture commerciale du grain, comme Alexandre Joigne de Couvrigny, dont la ferme atteint 133 hectares en plaine de Caen. Leur point commun reste l'exploitation directe de leurs réserves. Alors, premier point des exploitants agricoles. Alors, premier tableau, la structure de la réserve moyenne. C'est tout bête, j'ai pris le total des surfaces déclarées en réserve et pour la superficie moyenne, je disais par 76, le nombre de réserves. Les bois forment le tiers de la superficie de la réserve, ce qui ne surprend pas car ils sont une source de profit par la cession rémunérée des coupes, mais aussi pour le plaisir de la chasse. La vente de bois rapporte gros. Ainsi, 16,3 hectares de bois âgés de 15 à 20 ans, coupés à Bailleul près d'Argentan, sont estimés 24 000 livres en 1778. D'accord ? De plus, les bois et forêts fournissent combustible, bois de charpente pour le logis du propriétaire, servent de réserve de chasse pour le seigneur. Certaines réserves sont tournées essentiellement vers la gestion forestière. Il y en a trois. Celle de Henri-René Levaillant, résident à Culay-le-Patry et près de Vire, où il a 114 hectares, dont 90% sont des bois. Donc cette stratégie forestière ne concerne que très peu de réserves, 4 sur 76. Le reste du temps, les bois que l'on trouve dans 43% des réserves ne dépassent pas 10 hectares. Donc on a quelques très grandes superficies, et sinon le reste c'est des bois de 5 à 10 hectares. Bon, les labours, deuxième poste, 31,15%, constituent logiquement une part importante des terres de la réserve de par l'importance des céréales dans l'alimentation. La culture du grain sur une surface moyenne de 6,76 hectares par exploitation peut assurer l'autosuffisance alimentaire du foyer, ce qui est d'un intérêt primordial. Toutefois, on peut constater que la superficie des terres en labour n'est qu'un pôle parmi deux autres, et non une catégorie hégémonique comme on aurait pu le penser. Il semble que la noblesse se contente de sa sécurité alimentaire sans chercher à développer systématiquement sa capacité à produire du grain. Le quart de la surface de la réserve est constitué de prés et de prairies pour nourrir le troupeau. L'élevage du bétail est donc une composante importante de l'activité des gentilshommes fermiers, qui mobilise 5,58 hectares en moyenne par exploitation. Les ovins et les bovins garantissant l'approvisionnement en viande et produits laitiers. Il faut noter aussi que la culture des céréales nécessite une force de travail fournie par les bœufs et les chevaux que l'on trouve dans les fermes. Le reste de l'exploitation est composé d'un grand jardin, d'une moyenne de 8200 m², d'un plan de 6900 m² et de landes pour un demi-hectare. La finalité du jardin n'est pas tant l'agrément que la culture potagère. D'accord ? Mais on peut trouver des jardins d'agrément puisqu'on a des sécateurs à tailler le buis, indice de jardin un peu à la française, on va dire. Mais c'est essentiellement la culture potagère qui est pratiquée. On a aussi des plants. Bon, là, c'est pour le cidre, l'eau de vie, le poiré. Les landes produisent du genêt qui servent pour les litières des animaux. Donc, la réserve moyenne d'une superficie de 21,7 hectares se compose donc de fonds permettant une exploitation optimale des ressources. Rien ne manque dans la panoplie. Alors, ces réserves assurent-elles l'indépendance alimentaire du foyer ? Là, c'est la description d'une réserve moyenne. Qu'en est-il de la superficie réelle de chaque réserve ? Celle-ci est toujours viable économiquement et en assurant l'indépendance alimentaire du foyer. Alors, j'ai étudié la composition précise de chaque réserve, sa superficie, afin de distinguer les différents types de réserves. Donc déjà, le premier critère, la surface. Le premier cinquième des réserves est de 0 à 5 hectares. 5 hectares, c'était la limite minimum d'une exploitation fournissant une sécurité alimentaire dans le bocage. C'était une limite qui a été établie par Bernard Garnier. En dessous de 5 hectares, il est illusoire d'espérer acquérir une autosuffisance alimentaire. Donc, on va dire qu'a priori, 77% des réserves permettent l'autosuffisance alimentaire. Alors, ces réserves de moins de 5 hectares ont une surface moyenne de 2,45 hectares, donc ce qui est loin du seuil critique. Alors, on pourrait imaginer que ça serait un hobereau peinant à vivre chichement sur un petit lopin de terre. Elle est pourtant fausse, cette image. Les propriétaires de ces micro-réserves sont très majoritairement, 15 sur 17, des nobles possesseurs de terre, détenant chacun plus de 30 hectares de terre mis en location et leur apportant suffisamment d'argent pour vivre. Et qui donc se contentent d'assurer une partie du quotidien en exploitant un jardin pour la soupe et un pré pour la vache. Elles ne manquent pas d'autres fonds. Elles ont un aspect de mini-ferme, on va dire. Elles fournissent du grain, mais pas suffisamment pour avoir une autonomie d'un an. De 5 à 10 hectares, donc on voit que c'est à peu près un cinquième des réserves, l'autosuffisance semblerait assurée, puisqu'elles ont une superficie moyenne de 7,78 hectares. Sauf que on s'aperçoit que les labours ne forment que 30% du total. Ce qui fait 2,33 hectares, ce qui n'est pas assez pour l'indépendance alimentaire. Ce sont les prés qui constituent la plus grande partie de ces réserves de 5 à 10 hectares. Finalement, donc, on va pouvoir déterminer que 43,42% des fermes n'ont pas une taille suffisante pour espérer être en situation d'autarcie alimentaire. A contrario, on peut donc dire que passer le seuil des 10 hectares, une réserve semble assez vaste pour fournir tout ce dont un foyer a besoin. Dès la tranche 10 à 20 hectares, la composition de la réserve, d'une superficie moyenne de 12,44 hectares, montre que l'autosuffisance est réelle. La limite des 5 hectares de labour est presque atteinte avec une moyenne de 4,44 hectares. Il y a 2,88 hectares de prés qui permettent de nourrir une paire de bœufs et quelques vaches, un grand jardin, 1,28 hectares et un petit plan. Et il y a 3,33 hectares de bois. Alors, au-delà de 20 hectares, la réserve permet sans doute de dégager des surplus commercialisables. En effet, dans la tranche de 20 à 40 hectares, la surface moyenne des labours est de 9,15 hectares, ce qui suffit amplement pour pouvoir consommer pour le ménage et dégager un petit revenu. Et c'est toujours les prés qui sont majoritaires, avec 37,31% de la surface. Alors, la superficie de la superficie moyenne 20 à 40 hectares, c'est 26,48 hectares. Bon. Et enfin, au-delà de 40 hectares, on se place dans le cadre des grandes exploitations, puisqu'en moyenne, si on réunit de 40 à plus de 80 hectares, elles atteignent en moyenne 66 hectares. Donc là, on n'est plus dans la même échelle. Alors, Cette ventilation des réserves m'a amené à voir s'il y avait des stratégies d'exploitation différentes des réserves. Alors, lorsqu'on examine la structure individuelle de chaque réserve, et non plus la moyenne globale, un autre phénomène apparaît, la spécialisation de certaines réserves. Et si une bonne partie des réserves peuvent être considérées comme généralistes, avec pour unique souci la production alimentaire générale, les autres, qui constituent une légère majorité, 40 sur 76, donc 52%, manifestent deux tendances différentes. Certaines sont vouées au labour, même si elles possèdent une petite superficie de prés et de bois, tandis que d'autres, au contraire, sacrifient les labours au profit des prés. La composition des réserves n'est pas uniforme. Ainsi, 26 réserves n'ont aucun labour, alors que seulement 7 réserves n'ont pas de prés. D'accord ? Donc on voit que le pré est beaucoup plus fréquent que le labour dans les réserves. La présence d'herbage est une constante qui n'est abandonnée que lorsque la réserve est forestière, ou située dans le plateau céréalier de la plaine de Caen, pauvre en prés, ou bien constituée uniquement d'un jardin. Un cas. En dessous de 5 hectares de labour, on ne peut parler de spécialisation, car les labours représentent en moyenne 36,5% de la surface totale de l'exploitation, alors que la moyenne établie, toute exploitation confondue, est de 31,15%. D'accord ? Donc, dans un chapitre précédent de ma thèse, j'avais montré que la ferme moyenne, c'est 31,15% de labour en moyenne. D'accord ? Donc là, c'est à 36,5%. Donc l'écart à la moyenne ne marque pas qu'il y ait une spécialisation. Les prés sont dans une situation identique. Ils sont à 26,9% de l'exploitation, donc la moyenne globale est de 25,72%. Bon. Cependant, dès le seuil des 5 hectares de labour ou de prés franchis, les écarts à la moyenne globale commencent à devenir significatifs. Alors, plus pour les labours, donc lorsqu'il y a plus de 5 hectares de labour, entre 5 et 20 hectares de labour dans la réserve, ils forment 47,8%, alors que la moyenne est de 31%. D'accord ? Pour les prés, c'est un peu moins vrai, 33,6 contre 25,72. Alors, le seuil des 20 hectares, dès qu'on trouve soit 20 hectares de labour, soit 20 hectares de prés, ne laisse plus aucun doute. Elles sont spécialisées dans le labour ou le pré, puisque là, ça représente les trois quarts de la superficie de la réserve. Donc, on voit émerger deux stratégies différentes de production. La première stratégie, c'est la stratégie des labours. Elle est adoptée par de nombreux gentilshommes fermiers afin de se nourrir et de gagner de l'argent en vendant les surplus sur le marché local. La production est axée sur les céréales, mais pas exclusivement, car les légumineuses sont cultivées sur des surfaces non négligeables. L'étude des inventaires après décès de la noblesse rurale, et donc des gentilshommes fermiers en particulier, fournit quelques indications de ce qu'ils cultivent. Les notaires décrivent le stock de gerbes conservées dans les granges, ce qui permet d'avoir quelques confirmations sur les principales cultures. Alors là, je n'ai extrait que les inventaires qui ont été faits en août-septembre, au moment où on a rentré les récoltes. Parce que si on prend mois de janvier, on aura déjà la consommation. Donc là, j'ai extrait les inventaires qui ont été faits au moment où les récoltes sont rentrées dans les granges. Donc, on voit que trois céréales constituent l'essentiel du stock des réserves, froment, avoine et seigle. Ils ne cultivent pas le sarrasin. La céréale la plus présente est le froment, 41,37% du stock, culture caractéristique des bonnes terres. Cela illustre bien la qualité des terres possédées par la noblesse. C'est-à-dire qu'elle possède les meilleures terres du bocage, les meilleures terres du pays d'Auge, les meilleures terres de la plaine de Caen, Falaise, Argentan. L'avoine, qui arrive en deuxième position, marque l'abondance de bétail à nourrir. Donc, ça montre bien que la noblesse possède un nombre important de bétail et que donc elle est forcée de cultiver de l'avoine pour le nourrir. Les labours sont effectués à la force des chevaux de Harnois plutôt qu'à celle des bœufs. En effet, sur 18 inventaires où sont présents joug ou collier d'épaule, on constate que le collier est présent dans 13 inventaires alors que le joug n'est répertorié que dans 9 cas. En moyenne, il y a 1,23 charrues équipées par inventaire. On trouve aussi des herses, mais plus rarement. Enfin, le seigle, 16,18%, est présent essentiellement dans les inventaires de l'élection de Vire, au sol assez pauvre. L'orge est cultivée accessoirement sur des faibles surfaces. elles ne fournissent que 8,03% des récoltes. D'autre part, on constate que les légumineuses, pois, vestes, lentilles, même si elles ne sont pas absentes, ne constituent qu'une très faible part des gerbes stockées dans les granges, 4,52% au total. Alors, une fois satisfaites les exigences de la consommation personnelle, les surplus peuvent être vendus sur le marché local. Dans le cas où une grande partie de la récolte est vendue, on peut parler d'agriculture commerciale. C'est le cas de la réserve de Cuy, dont nous avons un compte exhaustif de la récolte de 1775, qui est exemplaire car il donne la destination des boisseaux récoltés. Sur 1709 boisseaux, on en garde seulement 8 pour la semence, 132 pour la consommation. Ensuite, les deux plus principaux postes, quasiment égalité, on a 773 boisseaux qui sont marqués pour la conservation, donc 45,23% du total, et 783 boisseaux qui sont destinés à la vente, donc 45,82% du total. Et enfin, 13 boisseaux sont réservés aux dons, c'est-à-dire pour les pauvres, par exemple. Le grain stocké, donc conservé dans le grenier, peut aussi bien être gardé pour nourrir le foyer tout au long de l'année que pour être vendu au moment opportun, par exemple au moment de la soudure, au maximum des prix à partir du printemps. Bon, donc on peut dire qu'au minimum, la moitié de la production de cette réserve est vendue sur le marché local. Alors, on a aussi une deuxième stratégie, la stratégie des prêts. Alors, elle entre dans le cadre d'une double volonté, assurer l'indépendance du foyer au niveau de la nourriture et du lait, mais aussi profiter des opportunités d'enrichissement générées par l'approvisionnement de Paris. L'élevage domestique et l'élevage spéculatif sont intimement liés puisqu'il ne s'agit au fond que d'un changement d'échelle. La noblesse normande paraît très soucieuse de l'exploitation rationnelle de son patrimoine foncier, aussi la possession de nombreux prés la rend-elle encline à participer à l'engraissement du bétail. A contrario, une faible surface en prés dans sa réserve l'oblige à réserver cet espace nourricier au bétail domestique. Aussi, plus la surface en prés augmente, plus il est facile de consacrer celle-ci à l'élevage spéculatif. Au total, ces deux volontés se combinent pour expliquer la présence massive de prés dans les réserves. On en trouve dans 91% de celles-ci. Alors, le désir d'approvisionnement de la maison en produits laitiers constitue une donnée générale. Alors, il y a un troupeau qu'on peut connaître par les inventaires après décès. Sur les 53 inventaires montrant une activité agricole, 47, soit 89%, contiennent mention d'au moins une tête de bétail. Le troupeau moyen, s'établissant à 18,6 têtes de bétail par foyer, tout type d'animaux confondus, et donc c'est pas 19 vaches, c'est tous les animaux, c'est à peu près 19. Les moutons sont les plus nombreux, mais c'est parce qu'ils forment quelques grands troupeaux. Par contre, ils ne sont pas les plus fréquents. Les plus fréquents sont les bovins, et juste après, les équidés. Les moutons, c'est dans simplement 21% des inventaires, alors que la vache est présente dans 80% des inventaires. La moyenne s'établit à 3,4 vaches par foyer. Le troupeau courant, c'est 1 à 2 vaches, à peu près la moitié des cas. Mais on peut aller jusqu'à 16 vaches, comme François Daumont de la Bourdonnière à Sévigny. Les jeunes non reproducteurs, veaux, génisses et génissons, sont moins nombreux, à peine 2 par foyer. Mais ils représentent l'avenir et la continuité du troupeau, donc ils ne sont pas systématiquement vendus. Les taureaux, eux, sont plus rares, on ne les rencontre que dans 17% des exploitations nobles, contrairement aux bœufs qui constituent une force de travail précieuse et sont donc souvent rencontrés, en nombre assez important, 3,7 bœufs par exploitation. Donc en moyenne, on aurait plutôt 2 paires de bœufs. Les équidés forment la deuxième source de force de travail, souvent pour l'attelage des charrettes, mais aussi pour tirer la charrue et transporter les individus. Chevaux, juments et poulains sont présents dans 68% des inventaires, avec une moyenne de 1,9 par foyer, à peine 2. L'âne et le mulet, rares dans l'ouest armoricain, ne sont qu'accidentels dans le troupeau. Une mention de mule et 4 mentions d'âne pour 6 individus au total, ce qui est négligeable. Et quant aux chèvres, on a 2. Le porc n'est pas aussi fréquent que l'on aurait pu le penser. Il n'est présent que dans un tiers des exploitations pour un nombre moyen de 2 individus par foyer, nourris de déchets, son, avoine. Et lorsqu'il y a des truies reproductives, elles ont une moyenne de 7 porcelets par truie suitée. La transformation du porc est faite sur place, comme l'attestent des nombreuses données de saloirs que l'on trouve dans les inventaires. Les cuisines voient les jambons et andouilles pendre sur les poutres, le lard stocké dans des pots. Donc le troupeau domestique est considéré comme un capital mobilier, précieux car cher et fragile. La connaissance des bêtes s'acquiert sur le terrain la plupart du temps, par transmission orale, par exemple, mais aussi, pas seulement. En effet, dans les bibliothèques des gentilshommes fermiers, je trouve très fréquemment le parfait maréchal, le maréchal expert, en livre de référence. D'autres, mais c'est les deux plus fréquents. Lorsque la surface en pré le permet, les nobles ne répugnent pas à participer au mouvement spéculatif fondé sur l'engraissement de bétail destiné au marché de Sceaux et Poissy. Le cas le plus documenté, c'est la famille de Dubois de Frévent à Francheville qui se livre à cette activité sur plusieurs décennies. Alors, Alexandre Dubois de Frévent, habitant Francheville dans l'élection d'Argentan, participe dans la première moitié du XVIIIe siècle au transfert de bovins vers le marché parisien. Alors, donnée importante, il ne participe pas personnellement au choix des bêtes engraissées. Ça serait un peu déchoir au niveau nobiliaire. Trop rustique, trop je m'occupe de la culture. Donc, il missionne des maquignons pour le faire à sa place. D'accord ? Ces maquignons, les frais de maquignons, c'est à peine 2,5 à 3 % de la valeur du bétail acheté, donc ce n'est pas une grosse dépense. Alors, où est-ce qu'il va aller acheter son bétail ? Dans le Bas-Maine, aux foires de Lassé et de Mayenne. Puis, elles sont transportées par le maquignon dans les terres des Dubois de Frévent à Francheville, où elles sont engraissées afin d'être vendues dans les foires régionales dans l'Est, par exemple Gacé, Bernay, même aussi le Neubourg, on va jusqu'au Neubourg. Quelles sont les marges de profit de l'élevage spéculatif des réserves nobilières ? À part les génisses de 1735 qui n'ont que faiblement profité du bois de Frévent, le profit s'échelonne entre 35 et 45%. Cette rentabilité du capital circulant est très forte, mais conforme à la rentabilité moyenne de ce type d'entreprise. L'avantage décisif de cette famille noble est d'être propriétaire de grands et beaux herbages. Elle n'a donc aucun frais de location de prêt pour l'engraissement des bêtes. Les profits sont donc nets, maximaux. Il n'est donc pas surprenant de voir qu'à la génération suivante, cette activité soit continuée avec succès. Donc, elle loue aussi des prêts aux marchands herbagers. Donc, dans cette stratégie de l'élevage, on a aussi la location de l'élevage. Alors, on a même un tarif dégressif en 1768, où on peut voir que, bien sûr, un bœuf, le tarif est dégressif de juin à octobre, et selon la qualité de l'animal, un bœuf au mois de juin, c'est 6 livres par mois pour le faire paître. Au mois d'octobre, c'est 2 livres. Une vache, c'est 4 livres. Et une bête d'un an, c'est 2 livres 5 sols au mois de juin. D'accord ? Donc, en gros, plus l'animal broute, plus il paye cher. Bon. Alors, le tarif de l'année 1768 permet de bien comprendre l'enjeu financier de cette location. Sachant que le grand herbage des Dubois de Francheville est capable de supporter 50 vaches, la location de cet herbage peut rapporter 600 livres sur 5 mois. Donc, on comprend mieux l'intérêt de ces nobles pour l'engraissement du bétail ou la location de leurs herbages à des maquignons, à des marchands herbagers. Alors, l'élevage spéculatif constitue ainsi une ressource de revenus particulièrement importante pour ceux qui peuvent s'y livrer. La nécessité de pouvoir réserver une grande surface en herbe fait que seuls les nobles possédant de telles superficies dans leurs réserves, plus de 20 hectares, peuvent s'y consacrer. Alors, gentilhomme fermier, exploitant agricole, mais noble. Donc, on ne met pas la main à la pâte. C'est un peu comme le sire de Gouberville. Il va être donneur d'ordre. Ce sont des employeurs. Ils gèrent leurs réserves, mais ils ne se salissent pas les mains pour autant. Ils disposent d'un personnel rémunéré. En moyenne, on trouve 2 domestiques dans chaque exploitation. Il y a une servante qui s'occupe de l'intérieur, cuisine, ménage, mais aussi de la traite des vaches, du nourrissage des volailles, la basse-cour. Elle dort dans un cabinet près de la cuisine, voire dans la cuisine. Ensuite, on trouve un valet qui s'occupe des bétails, soins et nourrissage, près duquel il dort. Le lit du valet est dans l'écurie ou dans l'étable. Bon. Lorsque l'exploitation se consacre à la céréaliculture, c'est ce valet de Harnois qui s'occupe des gros travaux agricoles comme les labours avec la charrue. Servantes et valets, on dégage à l'année. Ils reçoivent, outre le logis et la nourriture, des vêtements et des chaussures. Bon, on a des exemples, mais j'ai passé. Au total, par exemple, le budget consacré à la rémunération de ces domestiques par Jacques de Hainaut se monte à 117 livres par an. D'accord? Donc, ce n'est pas un poste négligeable. Servantes et valets sont donc chargés du travail à l'année. Toutefois, quand la période des gros travaux arrive, de juin avec la fenaison à septembre avec le battage des grains en passant par la moisson de juillet-août, le gentilhomme fermier embauche des journaliers payés à la tâche. Il loue des équipes. Ces moissonneurs sont payés à la journée. Le salaire moyen, c'est 10 sols par jour. Si on prend les Dubois de Frévent, qui ont aussi des terres agricoles, les journaliers travaillent environ du 8 juillet au 5 août avec un maximum de 22 personnes ensemble. Donc, ils sont des gros employeurs. Donc, au total, la gestion matérielle de la réserve est effectuée par un personnel au nombre fluctuant selon les périodes et les besoins. À une domesticité à gage s'ajoutent des ouvriers agricoles loués pour la journée qui permettent de faire les gros travaux gourmands en bras. Le gentilhomme fermier reste donc, de par la nécessité de son statut, plus un donneur d'ordre qu'un acteur direct. Il confie le travail, en surveille le bon déroulement, mais ne l'effectue pas. Seules quelques tâches considérées comme nobles, comme la greffe des arbres fruitiers, les petits travaux du potager, considérés comme une extension de la maison, sont pratiqués par ces gentilshommes. Alors, on a des exemples assez amusants. J'ai une lettre du père d'Alexandre Dubois de Frévent qui explique à son fils comment tracer un carré d'asperges dans le jardin. Méthode mathématique, hein, avec le tracé au cordeau, là, et toute la lettre, c'est comment tu fais ton carré d'asperges et comment on fait. Donc, vraiment, c'est des jardiniers, c'est des entrepreneurs, ils connaissent parfaitement le fonctionnement du marché agricole. Ce sont aussi des nobles ruraux. On va passer au deuxième point, le cadre de vie. En milieu rural, toujours à partir des inventaires après décès, j'ai voulu voir quel était le cadre moyen d'un gentilhomme fermier. Alors déjà, ils habitent... Alors, par rapport au profil moyen. En milieu rural, le qualificatif maison recouvre une moyenne de 5,5 pièces à vivre. D'accord ? Je n'ai pas compté dedans les bâtiments agricoles, ni la cave, ni le grenier. Ce sont donc la salle, la cuisine, les salons, les chambres. Donc, en moyenne, 5,5 pièces à vivre pour une maison rurale. Un spectre compris entre 1 et 11 pièces. Quand le notaire qualifie l'habitation de manoir, la moyenne est de 13,5 pièces en moyenne. Le spectre entre 8 et 17 pièces. Le terme de château, c'est une moyenne de 23 pièces. Donc entre 17 à 38 pièces. Bon. Alors, les gentilshommes fermiers habitent essentiellement dans les manoirs, ou les grosses maisons, c'est-à-dire que quand je vous ai dit une moyenne de 5,5 pièces, un spectre compris entre 1 et 11 pièces, les gentilshommes fermiers sont entre globalement 6 et 11 pièces pour une maison, et ils sont beaucoup dans les manoirs. Donc, l'exploitation agricole est souvent le manoir avec les pièces de terre autour. D'accord ? Si on examine les richesses détenues dans les maisons rurales, leur valeur moyenne s'établit à 852 livres, tandis qu'un manoir héberge 2061 livres de meubles en moyenne et un château 8200 livres. Donc on voit, les écarts sont conséquents et significatifs. Un manoir détient 2,42 fois plus de richesses mobilières qu'une maison et un château 4 fois plus qu'un manoir. La différence entre maison et manoir ruraux est étonnamment homogène. Un manoir a 2,45 fois plus de pièces et 2,42 fois plus de richesses qu'une maison rurale. D'accord ? Donc, ce qu'il faut retenir, gentilhomme fermier, la catégorie supérieure des maisons rurales et les manoirs. On ne trouve pas de gentilhomme fermier avec des maisons qui soient inférieures à 5 pièces. Ce qui montre leur relative aisance. D'accord ? Alors, lorsqu'on examine la répartition de la valeur selon les pièces, pour ce qui est des habitations rurales, on voit que la principale concentration de richesse, c'est la chambre. Bon. Mais on voit bien que la cuisine est remarquablement pourvue en richesse. C'est là où on trouve généralement l'argenterie, plus que la salle. Les bâtiments agricoles ont logiquement une place importante puisqu'ils accueillent les moyens d'existence du couple, train de culture, cheptel, récolte. Les cabinets, c'est-à-dire des petites pièces qu'on pourrait appeler des débarras maintenant, sont bien pourvus parce qu'on y trouve aussi des garde-robes. Et vous voyez que le salon n'est qu'anecdotique, c'est significatif. C'est-à-dire qu'au niveau culturel, on voit que la diffusion du salon, de la fonction de salon, est une diffusion urbaine, d'abord de la haute noblesse vers la noblesse urbaine, et que dans notre espace bas-normand, on n'est pas encore dans la diffusion du salon, de la, on va dire, de la sociabilité de salon dans l'espace rural. Les salons à la campagne, c'est dans les châteaux, point. Sinon, on a une sociabilité qui est liée à la salle, à la cuisine aussi, mais surtout à la salle et à la chambre. Il ne faut jamais oublier qu'un gentilhomme reçoit dans sa chambre. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de meubles de valeur dans les chambres. D'accord ? Alors, maintenant, les mobiliers. De quel mobilier moyen les différents types d'habitats bénéficiaient-ils ? Un château rural, 111 meubles en moyenne. Un manoir, 67 meubles en moyenne. Une maison, 31 meubles en moyenne. D'accord ? Donc, bien sûr, la place des chaises, des tables et des fauteuils qui montrent la sociabilité. D'accord ? Le nombre important de lits. Et vous voyez que le nombre de lits, c'est environ 4 dans une maison rurale, 8 dans un manoir et 13 dans un château. Ça a aussi un lien avec la sociabilité, parce que la sociabilité rurale s'exerce aussi le soir, donc les discussions, les veillées. Et le problème, c'est qu'en ville, bah, si vous invitez quelqu'un qui habite en ville, il peut rentrer chez lui parce que les distances sont courtes. Mais si vous avez invité les gens du château qui est à une lieue, ils ne reviennent pas chez eux après à minuit. Quoi. Les petits chemins creux du bocage en pleine nuit à minuit, ça ne les incite pas. Donc, il y a beaucoup de lits et de chaises pour héberger un maximum de gens chez soi en réception. Donc, les maisons rurales sont tout de même les parents pauvres du mobilier. D'accord ? Elles ont 3,5 fois moins de meubles qu'un château et deux fois moins qu'un manoir. Donc, toutefois, les maisons rurales sont celles qui sont les plus fréquentes. Donc, on peut dire que les nobles ruraux, alors, les gentilshommes fermiers sont dans les maisons rurales qui ont le plus de mobilier et dans les manoirs. J'ai un château où le seigneur est manifestement gentilhomme fermier, mais c'est une exception. Et donc, ils sont plutôt entre, on va dire, 40 et 70 meubles dans leurs habitations. Ce qui est nettement plus qu'une habitation de fermier moyen. Un coq de village n'aura pas autant de meubles qu'un noble rural gentilhomme fermier. Les meubles sont... L'achat de meubles neufs est assez rare. Les meubles cassés ou trop vieux ne sont même pas achetés, mais stockés dans les caves et les greniers. La sociabilité de ces gentilshommes fermiers. Donc, la sociabilité nobiliaire est une composante essentielle, voire spécifique, de son art de vivre. La richesse matérielle de la noblesse l'autorisait à développer une vie fondée sur la possession d'un temps libre, utilisé à des fins de représentation et de socialisation. Nos gentilshommes fermiers n'y échappent pas. On lit connaissance, entretient ses amitiés, forme un cercle de relations qui structure le mode de vie. Promenade, lecture, musique et conversation pour les dames, chasse pour les hommes, dîner d'apparat pour tous, sont les fondements des relations intranobilières. Cette sociabilité et ses manifestations particulières constituent donc le ciment social de l'ordre. Les rituels du paraître en société sont fondamentaux dans l'optique des lignages. C'est ainsi qu'ils créent et entretiennent leur réseau d'influence, qu'ils définissent leur place au sein de la noblesse. Les occasions de rencontre sont très variées. Bien sûr, les événements familiaux, de permettre la mobilisation du lignage de la parenté lointaine et des réseaux amicaux. Cependant, la sociabilité noble s'exerce surtout au quotidien par le biais des visites entre voisins, de l'invitation de collègues, mais aussi des fréquentations amicales plus lointaines. Cette sociabilité exigeait des nobles d'y sacrifier une partie de leur argent pour parvenir à conforter leur statut, voire le rehausser. En effet, elle repose sur la mobilité, la conformité au modèle et l'image que l'on donnait de soi-même. Il faut donc pouvoir se déplacer dignement, se vêtir de même et recevoir avec éclat. Quels moyens de déplacement les nobles utilisent-ils? Et c'est là que c'est intéressant, c'est que les inventaires après décès ne fournissent qu'une image fragmentaire des moyens de locomotion de la noblesse. Sur les 90 inventaires que j'ai dépouillés, la moitié transcrivent des biens servant au déplacement. L'image de la noblesse roulant carrosse n'est pas fausse, mais elle reste l'apanage des couches aisées du second ordre. Carrosse, cabriolet, berline et autres chaises de poste sont réservées à une minorité fortunée. Les nobles ruraux, moins riches, se contentent d'une charrette. Mais beaucoup d'entre eux n'ont que des chevaux scellés pour le transport. Donc, nos gentilshommes fermiers circulent en charrette, ils circulent à cheval, et pour une partie d'entre eux, on va dire la catégorie inférieure, ils circulent même à pied. C'est-à-dire que dans les inventaires, on n'a aucune selle, aucun mort, aucune bride, rien, pas de charrette, donc on en est obligé d'en conclure qu'ils sont bien obligés de se déplacer à pied, ce qui restreint leur sociabilité à un cercle étroit du voisinage. Bon. Ainsi, la possibilité de constituer et d'élargir son réseau dépend pour une bonne part de la qualité des moyens de transport dont on dispose. Les gentilshommes fermiers ont donc une mobilité moyenne, hein, avec des moyens de déplacement qui sont plutôt simples. Alors, ils reçoivent aussi avec moins d'éclat. Si on regarde la vaisselle, ils ont de la vaisselle d'étain, ils ont de la vaisselle de faïence. Généralement, c'est blanc, enfin, ou grise. Il y a peu d'argenterie. Il y en a un peu, mais ça va être une partie simplement une écuelle à bouillon. On a 6 fourchettes, 6 couteaux, et voilà. D'accord. On va avoir aussi une diffusion alors, d'éléments marquants de la consommation. Si on prend un exemple, le thé et le chocolat et le café. Le chocolat est très rare dans le bocage. Il y en a, je l'ai trouvé que dans 1% des inventaires. Dont un, on va dire la moitié, c'est le comte de Flers, le noble le plus riche du bocage. Donc de toute façon, lui, c'est pas un gentilhomme fermier. Et une dame de Clécy, Antoinette de Guillon, qui avait du chocolat dans ses réserves. Mais à part ça, pas de chocolat. Le café et le thé sont beaucoup plus fréquents, mais avec de grandes différences. Le café, si on prend tous les inventaires, c'est 37,7% des inventaires ont un objet qui sert pour le café. Une cafetière, des tasses à café, enfin, qui marquent la consommation de café. Le thé, beaucoup plus rare, 13,3% des inventaires. Mais alors là, c'est pour tous les inventaires. Si on regarde les inventaires, cette fois-ci, des nobles ruraux et des gentilshommes fermiers. Le thé, 11% des ruraux. Pour ce qui est du café, c'est 27,5% des inventaires ruraux. Au total, 47% des inventaires avec les urbains. Et si on prend que les ruraux, c'est 25% des ruraux. Donc on voit bien que le café, c'est urbain. Et quand on le retrouve à la campagne, c'est dans les manoirs, dans les châteaux, quelquefois dans les grosses maisons, mais c'est la strate supérieure de la noblesse rurale, dont une partie de gentilshommes fermiers, mais pas tous. D'accord ? C'est surtout une consommation liée à la richesse. Si je prends les châteaux, 75% des châteaux ont une cafetière, 62% ont une théière. Si on prend les manoirs, 54% des manoirs ont une cafetière et 18% des manoirs ont une théière. Et si on prend les maisons, alors cette fois-ci, urbain et rural, j'ai tout mélangé, c'est un quart des maisons ont une cafetière et simplement 10% ont une théière. Moins on est riche, moins on peut boire ses breuvages. Café et thé sont peu fréquents à la campagne dans la consommation. Alors, bien sûr, la qualité d'une réception gastronomique, c'est bien sûr le menu, mais aussi les boissons. Et là, il y a une grosse différence entre les nobles des villes et les nobles des campagnes. La place du vin. Lorsque j'ai fait le compte des tonneaux présents dans les différentes caves, la provenance dans une comment dire, une exploitation des gentilshommes fermiers, ils ont essentiellement 57% des tonneaux contiennent du cidre, 30% du poiré, 1% de l'eau de vie et 12% du vin. Donc le vin est vraiment une boisson très minoritaire dans les campagnes. On boit du cidre, du poiré, qu'on soit le noble. Alors, on a quelques bouteilles, mais c'est pour les grandes occasions, effectivement, ce n'est pas de la consommation quotidienne. Les domestiques, le vin, ils n'y touchent pas. Hein. C'est, on va dire, de la consommation de petits cidres pour les domestiques, hein, c'est cidre coupé d'eau. Et sinon, pour la famille noble, ça sera le cidre, le bon cidre, le bon poiré et quelquefois du vin. L'eau de vie est produite dans l'exploitation. J'ai de nombreuses exploitations de gentilshommes fermiers qui ont l'équipement complet pour faire de l'eau de vie. Un Clessy, comme ça, sur les quatre grosses maisons ou manoirs qui sont avec un gentilhomme fermier intérieur, elles ont toutes l'équipement. Alors, je sais pas, avec le chapeau, l'alambic, la cuve, qui sert à fabriquer l'eau blanche. Donc, conclusion. Les gentilshommes fermiers sont des nobles qui sont insérés dans le tissu rural. Ils ont les mêmes préoccupations que leurs voisins paysans. Sauf qu'ils ont, de par leur statut, pas la même optique. Ils ne peuvent pas se permettre de labourer eux-mêmes. D'accord ? Donc, ils n'ont pas tout à fait la même pratique de l'exploitation, mais ils en connaissent parfaitement les ressorts. Il suffit de lire les lettres de Madame Dubois de Frévent à son mari sur à quelle date c'est la meilleure vente pour les bœufs, pour comprendre qu'ils ont une connaissance du fonctionnement du marché spéculatif sans problème. C'est eu par l'éducation. Par exemple, Madame Dubois de Frévent a une petite fille, et dès l'âge de 12 ans, cette petite fille, on lui donne la responsabilité d'une vache à acheter, à vendre, à engraisser, tout ça. Et son trousseau, elle le constitue en faisant de l'élevage spéculatif dès l'âge de 12 ans. Donc, avec ce type de pratique, ils connaissent parfaitement le monde rural qui les entoure. Par contre, on s'aperçoit que au niveau de la sociabilité, ils ne sont pas réellement insérés dans le monde rural, en ce sens qu'ils sont dans une position supérieure, ils ont une sociabilité entre nobles, et du voisinage, oui, mais dans une position supérieure, c'est-à-dire, par exemple, on les retrouve dans le parrainage des enfants des voisins, d'accord, mais peu. Si on prend sur 100 enfants de la noblesse, très peu sont parrainés par des gens du tiers état déjà, encore moins par des gens du tiers état rural. Je n'ai quasiment aucune trace de laboureurs comme parrain d'enfants nobles. J'ai quelques sieurs, donc de cela je peux se dire que c'est peut-être des laboureurs, mais ils ne sont pas présentés comme laboureurs. Donc finalement, ils sont dans une position assez originale. Ils sont dans le monde rural, économiquement ils sont insérés dans le monde rural, mais socialement ils sont tout de même à distance. Ils connaissent leurs voisins, ils discutent avec eux, mais ils ne vont pas les inviter à manger chez eux. Quand on voit bien, c'est le réseau social, c'est la noblesse des environs. Donc, ils sortent peu de leur milieu. Ils se marient entre eux. D'accord ? Ils se marient entre eux. Et même, on peut dire qu'il y a une espèce d'endogamie des gentilshommes fermiers assez importante, parce que finalement ils se marient entre gentilshommes fermiers, ils vont pas voir tellement d'autres types de noblesse. Or, quelquefois la noblesse de ville, mais peu, c'est souvent la noblesse rurale et surtout des gentilshommes de leurs environs qui sont eux-mêmes pratiquants l'exploitation agricole. Donc un peu un espèce de repli sur soi, une position dans le monde rural assez original, puisque intégré économiquement, mais coupé socialement. On peut avoir du parrainage d'enfants du tiers-état par des nobles, ça se fait, il n'y a pas de souci, ça conforte leur statut. Par contre, l'effet inverse, je fais parrainer mon enfant par un membre des environs, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Donc on voit bien qu'ils sont des ruraux à part entière, mais sans être totalement insérés dans la sociabilité rurale locale. Voilà à peu près ce que je pouvais dire.